Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidza à la présentation de cette édition du lundi 31 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. La CEDEAO entérine la réalité de la présidence Goïta au Mali et appelle à la nomination immédiate d'un premier ministre qui soit une personnalité civile.
Le sentiment qui prévaut aujourd'hui à Bamako de façon générale, c'est un sentiment de satisfaction.
Le Tchad accuse l'armée centrafricaine d'avoir tué 6 de ses soldats. Une cinquantaine de morts dans de nouvelles attaques dans le nord-est de la RDC. Nouvel enlèvement au Nigeria, de nombreux élèves kidnappés dans une école privée musulmane. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le colonel Assimi Goïta est rentré lundi au Mali avec pour tâche première de nommer un premier ministre de transition. Les 15 pays membres de la CEDEAO ont décidé dimanche de suspendre le Mali de leur organisation. Ils ont réclamé la nomination immédiate d'un nouveau premier ministre issu de la société civile. Cette suspension prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'en février 2022. Échéance à laquelle sont programmées des élections présidentielles et législatives en vue de remettre le pouvoir entre les mains des civils. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France partage la priorité absolue accordée par la CEDEAO à l'organisation de la présidentielle au 27 février 2022. Le président Emmanuel Macron a aussi affirmé dimanche que la France retirerait ses troupes du Mali s'il n'y avait plus de légitimité démocratique ni de transition et si Bamako allait dans le sens d'un islamisme radical. Le Tchad a accusé l'armée centrafricaine d'avoir tué dimanche 6 de ses soldats, dont 5 enlevés et ensuite exécutés, dans l'attaque d'un poste frontalier en territoire tchadien. N'Djamena dénonce un crime de guerre qui ne laissera pas impuni. La Centrafrique, elle, assure que son armée poursuivait à la frontière des éléments d'une coalition rebelle qui tentait depuis décembre de renverser le pouvoir avant d'être repoussée. Le point avec Freeman Sipila.
24 heures après l'incident provoquant la mort de 6 militaires tchadiens dimanche à la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, les autorités centrafricaines réagissent. Selon Ange Maxime Kazagi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ce sont des éléments de la coalition rebelle CPC qui sont responsables de cet incident.
Dans la poursuite des éléments de la CPC à la frontière centrafricano-tchadienne le dimanche 30 mai 2021, des échanges de ont eu lieu de part et d'autre. Ces échanges ont malheureusement provoqué des morts côté centrafricain et tchadien, semant ainsi la désolation, une fois encore, du fait des actions de la CPC. Le gouvernement de la République centrafricaine condamne le mode opératoire de la CPC qui procède à des attaques sur les populations centrafricaines avant de traverser la frontière.
Affirmant que l'incident a fait des morts parmi les militaires des deux pays, le gouvernement centrafricain propose à la partie tchadienne la mise en place d'une mission conjointe d'enquête.
Le gouvernement tchadien a été informé de la proposition de la mise en place d'une mission d'enquête conjointe pendant qu'une mission gouvernementale de haut niveau se rendra à N'Djamena dans un bref délai.
Dans un communiqué, les autorités tchadiennes ont dénoncé un crime de guerre, promettant qu'il ne resterait pas impuni. Bangui, de son côté, joue à l'apaisement. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En RDC, au moins 50 personnes ont été tuées la nuit dernière dans l'attaque de deux villages en Ituri. Selon le groupe d'experts du baromètre sécuritaire du Kivu, 28 personnes ont été tuées à Boga et 22 à Tchabi dans le territoire d'Irumu. Nathalie Barge.
Des responsables locaux ont fait état d'au moins 36 morts à Boga dans une attaque contre le site de déplacés de Rubingo. La société civile attribue les tueries aux rebelles islamistes ADF, rappelant que les conflits communautaires entre les Niali et les Banyabouisa sont courants dans la région. Les responsables locaux soulignent que le site abrite essentiellement des membres de la communauté Niali. L'Ituri est troublée par des violences à caractère ethnique depuis une trentaine d'années. Des dizaines de milliers de personnes ont péri dans le conflit entre des Lendous et des Hema entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention de la force européenne Artemis. Les violences ont repris en décembre 2017 dans les territoires de Djougou, d'Irumu, d'Arou et de Mahgui. La majeure partie des attaques est imputée au groupe Maïmaï Kodeko, divisé en factions rivales. Les ADF originaires de l'Ouganda sont également actifs en Ituri, mais principalement dans le Nord Kivu. Le baromètre sécuritaire du Kivu a recensé plus de 122 groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo.
Toujours en RDC, un timide mouvement de retour des populations a été observé lundi à Goma, 4 jours après l'évacuation surprise ordonnée par les autorités. Survenue de façon soudaine le 22 mai, l'activité sismique du volcan Nyiragongo, notamment des tremblements de terre avec fissures, s'est poursuivie pendant près d'une semaine, faisant craindre le pire. Les grandes villes du sud-est du Nigeria étaient désertes lundi matin après l'appel lancé par un groupe séparatiste à une journée ville morte pour commémorer les victimes de la guerre civile du Biafra. Plus d'un million de personnes sont mortes entre 1967 et 1970 dans le sud-est du Nigeria. Une guerre civile et une terrible famine avaient éclaté après la déclaration d'indépendance du Biafra lancée par des généraux originaires de cette région. Des enlèvements de masse d'écoliers continuent au Nigeria. Un grand nombre d'enfants ont encore été enlevés dimanche par des dizaines d'hommes armés dans une école privée musulmane dans le centre nord du pays. Le nombre exact d'enfants enlevés était encore incertain lundi matin, mais précisions avec Gilbert Tamba.
L'enlèvement est intervenu un jour après la libération de 14 étudiants d'une université du nord-ouest du Nigeria qui ont passé 40 jours en captivité. Des responsables de l'État affirment que des hommes armés ont enlevé de nombreux élèves, environ 200, d'une école islamique dimanche de la ville de Tegna dans l'État de Niger. Selon un responsable de l'école, entre 20 et 25 motos avec des hommes lourdement armés sont arrivés dans l'enceinte de l'établissement scolaire tirant en l'air. Une personne a été abattue au cours de l'attaque et une deuxième personne grièvement blessée, a déclaré le porte-parole du gouverneur de l'État. C'est la dernière d'une série d'attaques de ce type contre des écoles dans le nord-est et le nord-ouest du Nigeria. L'école est fréquentée par des garçons et des filles âgés de 6 à 18 ans. Les enlèvements effectués contre rançon sont de plus en plus courants dans les États du Nord. La plupart des élèves enlevés ces derniers mois ont été retirés à leur libération des internats par leurs familles, craignant de nouvelles attaques.
Le Niger a accordé près de 100 000 doses de vaccin AstraZeneca à la Côte d'Ivoire pour lui permettre de poursuivre sans interruption sa campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est dans le cadre de la solidarité que nous prêtons ces 100 000 doses de vaccin et des consommables à la Côte d'Ivoire, a déclaré Hassan Abdoul Nasser, un responsable du ministère nigérien de la Santé. Le Burkina Faso a reçu dimanche soir quelques 115 000 doses de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19, financées par le dispositif COVAX qui vont permettre à ce pays d'Afrique de l'Ouest d'entamer dès le 2 juin une première phase de vaccination. Ces premiers vaccins seront répartis sur l'ensemble du territoire et les vaccinations doivent commencer mercredi sur les personnes les plus exposées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden, le vice-président Kamala Harris et les plus hauts responsables militaires du pays ont pris part à une cérémonie de dépôt de gerbes ce lundi au cimetière national d'Arlington. C'est à l'occasion du Memorial Day, fête nationale, honorant la mémoire des soldats morts au combat. Le point avec Rosine Munezer.
Dans son discours à Arlington, le président Joe Biden a défendu la démocratie américaine qu'il a qualifiée d'imparfaite. Il a appelé à plus de travail pour réaliser les promesses de ce qui, à son avis, reste la plus grande expérience dans l'histoire du monde. Évoquant le droit de vote, la liberté d'expression et les efforts en vue de réduire les disparités économiques et raciales, Le chef de l'exécutif américain a averti que la démocratie est en péril aux États-Unis et dans le monde face à des forces autocratiques. La démocratie est plus qu'une forme de gouvernement, c'est une manière d'être, une façon de voir le monde, a souligné le président Biden en rendant hommage aux Américains ayant consenti l'ultime sacrifice au service de la patrie. À l'occasion du Memorial Day, des drapeaux sont placés près des pierres tombales du cimetière national d'Arlington et de nombreux autres cimetières nationaux à travers le pays où sont enterrés beaucoup de ceux qui ont servi dans l'armée américaine. C'est aussi le début informel de l'été. 1,8 million de passagers ont été enregistrés dans les aéroports américains jeudi et vendredi.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique de ce soir, retrouvez Jean-Roger Dion pour la Minute Éco.
Au Cameroun, le président Paul Biya a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires confiées à un tribunal spécial chargé des affaires de corruption sur des allégations de détournement de fonds publics alloués à la lutte contre le COVID-19, a indiqué vendredi le gouvernement camerounais. Les médias évoquent des détournements massifs de fonds dont le montant n'a pas été précisé. Des responsables de l'opposition et de la société civile réclament enquête et poursuite contre des ministres et des hauts fonctionnaires. L'Algérie et la Libye, qui partagent près de 1000 km de frontières, travaillent à la reprise de leurs liaisons terrestres et maritimes, a indiqué le ministre algérien des Affaires étrangères en marge d'une visite du chef du gouvernement libyen Abdelhamid Debba à Alger ce week-end. Parallèlement, il s'est tenu un forum d'affaires algéro-libyen auquel prennent part plus de 400 opérateurs économiques, dont 150 Libyens.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo pour la page des sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Zamalek est le roi du basketball africain. Fondé il y a 110 ans, le club égyptien a remporté hier à Kigali le tout premier trophée de la Basketball Africa League. En finale, le Zamalek a battu l'Union sportive monastirienne de la Tunisie 76-63 pour soulever la coupe de cette première édition du tournoi initié par la NBA avec le soutien de la Fédération internationale de basketball. Warder Hodge du Zamalek a reçu le prix Hakim Olajuwon qui récompense le MVP, entendez meilleur joueur du tournoi, avec une moyenne de 14,5 passes décisives par match. Pour rappel, 12 équipes se sont affrontées dans la Kigali Arena au Rwanda du 16 au 30 mai. Basketball toujours, mais cette fois-ci en NBA avec les matchs de play-off. Dans la conférence Ouest, les Lakers et les Clippers sont à égalité alors qu'à l'Est, Atlanta et Brooklyn mènent 3-1. Bagasikoura.
Oui, grâce à Chris Paul, auteur de 18 points et 9 passes décisives, les Suns ont surclassé 100-92 les Los Angeles Lakers au Staples Center, permettant au Phoenix de revenir à égalité 2-2 dans sa série face aux champions en titre. À Atlanta, les Hawks victorieux 113-96 des Knicks mènent désormais 3-1 dans cette série, dont le match 5 aura lieu mercredi à New York. L'autre franchise new-yorkaise, les Nets, sont eux en excellente posture pour se qualifier pour les demi-finales de leur conférence après leur succès 141-126 sur les Boston Celtics. Ils mènent 3-1 dans leur série. Enfin, dans la série opposant à l'Ouest, Dallas et les Clippers, les deux franchises sont à égalité 2-2. Les Californiens l'ayant emporté hier 106-81. Les coéquipiers de Kawhi Leonard, d'abord menés 2-0 dans la série, ont clairement repris l'ascendant.
Football de plage avec la CAN de Beach Soccer. Le Sénégal remporte le trophée. Les Sénégalais ont raflé à domicile sur la plage de Sali leur 6e titre de champion d'Afrique de Beach Soccer. 4-1 en finale contre le Mozambique. Le Sénégal est du même coup qualifié pour la Coupe du Monde de Beach Soccer qui aura lieu en août prochain. En Russie, tout comme les Mozambicains, le Maroc a fini 3e après avoir battu l'Ouganda 5-3. Football sur le gazon, la Copa América 2021 qui devait avoir lieu en Colombie et en Argentine sera finalement organisée au Brésil du 13 juillet au 10 juillet. L'annonce faite par la Confédération sud-américaine de football intervient quelques heures après la décision de l'Argentine de renoncer à l'organisation du tournoi en raison de la pandémie de COVID-19. La Colombie avait jeté l'éponge il y a 10 jours en raison de troubles sociaux qui ont fait des dizaines de morts.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Lemanakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La CEDEAO prend des sanctions diplomatiques contre le Mali en le suspendant de ses instances, mais il n'y a pas eu de sanctions économiques comme beaucoup le craignaient à Bamako. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, rentré du Ghana où se tenait le sommet régional, a donc les yeux rivés sur la nomination de son premier ministre. Un poste qu'il a promis au mouvement du M5 qui avait mobilisé la rue contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta l'an dernier. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint à Bamako le journaliste et directeur de la chaîne Africable, Sekou Tangara.
Le sentiment qui prévaut aujourd'hui à Bamako de façon générale, c'est un sentiment de satisfaction. C'est vrai que pour beaucoup, il y avait cette menace qui planait, mais aujourd'hui, ce matin, c'était un ouf de soulagement. Les sanctions ont tout simplement été diplomatiques, elles ne sont pas économiques comme la fois dernière, après l'éviction de Ibrahim Boubacar Keïta, où les frontières avaient été fermées, où on avait assisté à des gels de transactions même avec la Banque centrale. Et cette fois-ci, rien de tout cela et de façon générale, c'est un ouf de soulagement qu'on peut percevoir sur les réseaux sociaux, lors des émissions interactives, sur les stations de radio et de télévision à Bamako.
Donc, est-ce qu'on peut parler de légitimation du colonel Goïta avec d'abord la Cour constitutionnelle qui l'a confirmé au poste de président de transition et puis sa présence au sommet de la CEDEAO de ce week-end?
Oui, même si on peut mettre un bémol sur sa présence effective au sommet, selon des places, il s'y était rendu pour pouvoir être écouté. On a appris qu'il n'a pas pris en tant que tel au sommet. Légitimation, oui, je pense que la CEDEAO est en train de se mettre sur la même longueur d'onde que les Maliens, puisque dans les capitales, le discours vis-à-vis de l'institution sous-régionale était de plus en plus décomplexé. Quand on écoute la vox publique, c'est comme si les Maliens ont aujourd'hui envie de prendre leur destin en main.
Parlant de la France, quelles sont les réactions concernant les propos du président Macron qui menace de retirer les troupes françaises si la transition s'approche un peu, si on peut le dire ainsi, des groupes islamistes radicaux?
Les propos sont durs, hein. Les propos sont très très durs envers la France. Encore une fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, nos confrères, les radios, les Maliens lambda dans les marchés, je pense que si la France pouvait faire quelque chose, si la France était d'un apport, depuis 8 ans, les terroristes n'auraient pas eu gain de cause dans certaines régions.
Où en est-on dans les discussions pour la nomination du Premier ministre de transition?
Bon, ceci est un secret polichinelle parce qu'avant de rallier Accra, le président de la transition avait rencontré les forces vives de la nation. Il a officiellement annoncé que la primature va revenir au mouvement du 5 juin, rassemblement des forces politiques. Et sitôt, les M5 aussi a tenu une conférence de presse pour dire que ce n'est pas un secret. La personne désignée pour la primature est le docteur Chaudel Maïga, et on espère que cet attelage sera le bon. En fait, c'est de l'attelage qui avait été envisagé en 1991 après le coup d'État de Amadou Toumani Touré.
C'était le journaliste Sekou Tangara, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
État de siège dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 50 personnes ont été tuées dans 2 villages, Boga et Chiabi, en Ituri. Eddie Isango a joint sur place à Boga le président de la société civile, Albert Kabaseke.
Il va profiter à 0h, il a réussi à tuer ici à Boga au moins 34 personnes, femmes, hommes, enfants confondus. Nous avons au moins 6 maisons d'habitation incendiées, 12 boutiques avec leurs marchandises incendiées, 6 véhicules incendiés avec les marchandises. Le président du jeune de la sécurité de Bama Boga, lui aussi tué par ses ennemis. On a incendié aussi son bar. Donc, 9 personnes chez lui qui demandaient jusqu'à présent, ils sont entre les mains de ses ennemis. Et voilà, on essaie d'appeler son gérant parce qu'il avait les jeunes qui travaillaient chez lui. Il avait l'hôtel, il avait le bar. Alors, les ennemis demandent un rançon au moins de 100 000 $ pour la libération de sa famille. Alors, chez nous, la situation s'est détériorée depuis 0h jusqu'à présent. En tout cas, il y a un mouvement de la population. Et sans oublier, Tchabi, là, il y a au moins 21 personnes tuées.
Donc, si vous prenez Tchabi et Boga, ça fait combien de personnes tuées?
Tchabi 21, Boga 34.
Avez-vous pu identifier les assaillants? Est-ce que ce sont les ADF ou d'autres personnes? Parce que certaines personnes parlent des Bamouisha qui auraient attaqué.
Moi, ça, je ne peux pas. Mais oui, moi, je ne peux pas mâcher les mots. Ce sont des Bamouisha qui ont fait cet acte. Ce ne sont pas des ADF. Donc, même au moment où nous parlons, ils sont à quelques 5 ou 4 kilomètres. Et d'ailleurs, nous avons des espions. Venir voir qu'est-ce que la population organise, la population locale, qu'est-ce qu'il y a comme organisation, qu'est-ce qu'il y a donc les mouvements des militaires. Donc, ils viennent juste nous voir et puis ils rentrent. Il n'y a pas normalement la sécurité. Les gens prennent la direction de Bouna vers Boukiri. Il y en a d'autres qui prennent la direction de l'Est. Donc, ils profitent, je ne sais pas, aller vers l'Ouganda ou comment. La situation n'est pas bonne.
La province de l'Ituri est en état de siège comme la province du Nord Kivu. Mais comment expliquer qu'un tel massacre se soit passé? L'armée n'était-elle pas là?
C'est qu'on peut déplaider, ça fait longtemps. Donc, on ne veut pas déployer les militaires dans cette zone. Vous savez, nous avons 3 chefferies et un autre groupement administratif, mais qui n'est pas vraiment sécurisé par les militaires, par des services, par la police. Et les petits qui étaient avec nous ici, ils ont essayé de défendre à son niveau, mais l'ennemi a réussi à faire tout ce qu'il a fait.
Donc, il y avait quand même une présence militaire. Est-ce que les assaillants étaient attaqués aux militaires qui étaient là?
Nous étions avec quelques militaires. Donc, l'effectif, chez nous ici, en tout cas, c'est encore un problème. Donc, nous étions avec beaucoup de militaires, sur moins 30. Il y en a d'autres qui étaient de position.
Albert Kabaseke, président de la société civile à Boga, en Ituri. Les Américains célèbrent le Memorial Day qui honore les militaires décédés pendant leur service dans l'armée. Ce jour férié fédéral est observé le dernier lundi de mai. Plusieurs activités officielles sont organisées. Le Memorial Day donne aussi lieu à de grandes retrouvailles en famille. Pour en parler, Nani Tetalani a joint Ruben Johannem, chercheur en littérature haïtienne à Minneapolis, dans l'État du Minnesota.
Ben, ici, aux États-Unis, le Memorial Day, c'est le jour consacré à ceux-là qui ont offert leur vie en sacrifice pour défendre le pays. Il y a des célébrations un peu partout dans le pays pour rappeler à la mémoire collective le sacrifice de ces soldats, de ces combattants.
Quels sont les événements officiels qui marquent souvent le Memorial Day?
Les autorités se déplacent pour aller au cimetière national dans chaque État et à Arlington National Cemetery à Washington, pour ce qui est au gouvernement fédéral, mais dans chaque État, il y a des activités commémoratives. Par exemple, aujourd'hui, dans le Minnesota, le sénateur Amy Klobuchar s'est rendu au cimetière national à Fort Snelling, qui est dans les parages de Minneapolis. La population en général profite de cette occasion pour rendre visite à la tombe de leurs défunts, pour faire le ménage autour des pierres tombales. On se réunit en famille également. Donc, c'est une tradition où les universités se vident, les institutions primaires et secondaires sont fermées, les services au niveau de l'État sont également fermés. Et le secteur commercial, en général, il y a bien de boîtes qui sont fermées.
Vous avez parlé d'une tradition et en général, les Américains se retrouvent en famille. Comment est-ce que les familles célèbrent le Memorial Day quand elles se retrouvent?
Ils se rendent ensemble autour des pierres tombales de leurs défunts. Parfois, on prend des déjeuners sur l'herbe, le fameux pique-nique. On profite de l'occasion également pour faire le ménage, comme je viens de le dire, autour des tombes, passer un moment avec leurs défunts au cimetière. Les gens voyagent beaucoup pour se retrouver en famille. Généralement, quand il y a célébration aux États-Unis, il faut s'y attendre. Il y a beaucoup de nourriture. On partage des repas somptueux, des repas vraiment généreux. Les gens profitent de ça également pour faire beaucoup de shopping.
D'accord. Mais quelle est la différence entre ce Memorial Day et le Veterans Day qu'on célèbre le 11 novembre?
Dans le premier cas, c'est plus spécifiquement consacré à la commémoration de la mort des combattants de guerre tombés sur les champs de bataille. Mais cependant, le second, Veterans Day, c'est consacré à la célébration des vétérans de la guerre. On offre des cadeaux aux vétérans, aux anciens combattants, pour leur témoigner de la gratitude, pour leur dire merci pour avoir mis beaucoup de temps à défendre le pays. On permet aux anciens combattants d'avoir des repas gratuits dans certains restaurants. On fait des petits cadeaux pour se rendre aimable à l'endroit des anciens combattants de la guerre. On célèbre avec les anciens combattants qui sont encore avec nous.
Ruben Johannem, chercheur à Minneapolis dans le Minnesota.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Toujours ici aux États-Unis, le président Joe Biden visite cette semaine la ville de Tulsa dans l'état de l'Oklahoma dans le cadre du 100e anniversaire du massacre racial de Tulsa. La visite intervient alors que les États-Unis réfléchissent à leur héritage d'esclavage et de violence raciale. Un reportage signé Michel Quinn, récit Jacques Aristide.
À l'heure où de nombreux Américains débattent de la question raciale, le président Joe Biden se rend à Tulsa ce mardi pour prendre part à la commémoration du 100e anniversaire du massacre racial de Tulsa. La ville devrait reprendre les fouilles d'un charnier présumé à la recherche d'un certain nombre de corps parmi les plus de 300 personnes tuées dans les violences. L'incident déclencheur du massacre a été l'arrestation d'un jeune Africain-Américain de 19 ans, accusé d'avoir agressé une jeune fille blanche de 17 ans. Les événements de 1921 ont entraîné la destruction du quartier de Greenwood à Tulsa, une partie prospère de la ville qui comprenait ce qui était alors reconnu comme le Black Wall Street. Ce n'est que ces dernières années que l'histoire de ce qui s'est passé a été partagée plus largement. Viola Fletcher est une survivante de 107 ans du massacre racial de Tulsa.
Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus, des corps noirs gisant dans la rue. Je sens encore de la fumée et je vois du feu. Je vois encore des commerces de noirs incendiés. J'entends toujours des avions voler au-dessus de ma tête. J'entends les cris. Je vis le massacre tous les jours. Notre pays peut oublier cette histoire, mais moi, je ne peux pas l'oublier.
L'année dernière, les trois survivants, encore en vie du massacre, ont intenté une action en réparation, affirmant que la ville de Tulsa, le comté de Tulsa, l'état de l'Oklahoma et la chambre de commerce de Tulsa étaient responsables de ce qui s'était passé. Des questions subsistent quant à savoir si des réparations devraient être payées et combien aux survivants et aux descendants. Un nouveau musée commémorant le massacre, Greenwood Rising, ouvre cette semaine. Les plans vus de tenir en concert ont échoué lorsque les négociations sur les paiements aux survivants et aux descendants n'ont rien donné. Pour certains officiels, marquer le 100e anniversaire du massacre est particulièrement important maintenant, un an après la mort de l'Africain-Américain George Floyd, entre les mains de la police du Minnesota. L'incident a déclenché des mois de manifestations dans les villes du pays et du monde entier et a incité de nombreuses personnes, y compris le sénateur James Lankford de l'Oklahoma, à prendre en compte les inégalités raciales qui continuent de marquer la vie américaine.
J'étais loin de me douter que les événements liés à la question raciale se produiraient au cours des 12 derniers mois, lesquels ont abouti à ce réveil dont la nation a été témoin pour ce qui est encore laissé en suspens au niveau de la question raciale en Amérique.
Le drame de Tulsa a été le massacre racial le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, d'après le National Museum of African American History and Culture de Washington.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Rounamira Gahima, Georges Léonard Sagno et José de Morissin. Eric Manela Kiza était à la présentation, ici va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de notre programme. À la prochaine.